C'est vrai qu'on a l'habitude de fonctionner un après l'autre. Vous savez, quand dans une église on est 300-400, on ne fait plus un après l'autre. Et sinon, il y en a 30 qui prient et les autres ne prient plus, quoi. Voyez, je ne pense pas que dans le ciel, ça sera comme ça non plus. Si dans le ciel, il y a des bruits de grandes eaux, nous dit la Bible. Voyez, donc voilà, si dans les moments où on est tous ensemble, il y en a deux qui prient en même temps, ou deux qui partent en même temps, ou des fois on ne fait pas attention qu'il y a déjà quelqu'un qui prie, c'est pas grave. C'est pas un problème, ça. Voyez, donc voilà, c'est des petites choses, mais je le dis, des fois on a des manières de fonctionner. Voilà, on a tellement pris l'habitude comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que ça doit forcément rester comme ça. Vous voyez, hein, voilà, alléluia. Heureusement qu'on n'est pas resté à la deux chevaux. Hein. Eh oui, parce que hein, sinon on aurait tous des deux chevaux. Bon, on a un peu évolué, mais là c'est pareil. Hein. C'est des petites choses, c'est des petits détails. Voilà. Eh oui. Ah, exactement. Exactement. On ouvre la parole ensemble ce matin. Je voudrais m'arrêter sur un, sur un texte qu'on connaît bien dans l'Ancien Testament. Qui a été un moment important pour le peuple d'Israël, qui a été la première victoire que le peuple d'Israël a remportée quand il est rentré dans le pays de la promesse. Donc de suite, peut-être ça vous dit quelque chose. Ils ont remporté une victoire sur une ville célèbre. Vous vous rappelez ? Voilà. Merci, j'attendais que quelqu'un réponde. Merci. Voilà, hein, la victoire de Jéricho. Et je voudrais que ce matin, si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. Les cinq leçons de Jéricho. Voilà, comme ça, tu as le titre. Voilà, les cinq leçons de Jéricho ou les cinq enseignements de Jéricho. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que cinq, mais on va s'arrêter sur ces cinq ce matin. Et je voudrais que ça puisse nous encourager les uns les autres parce que c'est le but. Je crois que cette histoire-là, elle est encore là pour nous encourager et nous fortifier. Alors, on va la relire, si vous voulez bien. Josué, chapitre 6. Alors, on va faire une lecture peut-être un petit peu plus longue que d'habitude puisqu'on va lire tout le chapitre. Josué, chapitre 6, verset 1er. Il a dit ceci, Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. » Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point. » Vous ne ferez point entendre votre voix et ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Amen. Voilà, alors, c'est une lecture un petit peu longue, désolé, mais je pense que ça valait la peine de le lire. Et c'est vrai que quand on lit un texte comme ça, on pourrait se dire « Ok, c'est une super histoire, elle est emballante quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé, quand on s'arrête un petit peu sur tous les détails. Mais à quoi ça peut nous servir pour nous aujourd'hui ?» Ben, je voudrais vous montrer que justement, c'est vrai que c'est une vieille histoire qui s'est déroulée il y a des siècles en arrière, mais au-delà du contexte, il y a certains principes et certaines vérités qui sont là, qui demeurent encore aujourd'hui d'actualité. Vous voyez ? Cette histoire de Jéricho, elle est là pour quelque part nous encourager parce que nous avons tous des situations où nous nous retrouvons tous devant des situations qui des fois ressemblent à cette ville fortifiée. C'est imbougeable, du moins à vue humaine. On pourrait se dire mais comment la situation peut changer, comment ça peut bouger, ça ressemble à un Jéricho. On est tous devant des situations, on est tous passés, on a tous connu, et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, des situations où on se dit mais il n'y a rien à faire quoi. Ben, ce texte, il est là pour nous encourager, pour nous montrer que, quelque part, les mêmes principes, les mêmes ingrédients demeurent, sont toujours là. Et c'est là pour nous encourager encore aujourd'hui. Quand on lit un texte comme ça, c'est là pour nous motiver et nous dire « Ok Seigneur, si tu as été capable de le faire là, devant cette ville de Jéricho, devant mon Jéricho à moi, tu es capable de faire la même chose. » Alléluia. Alors, 5 leçons, j'en ai relevé 5, il y en aurait certainement d'autres. On va essayer de se laisser encourager. La première de ces leçons, de ces enseignements, de ces vérités, appelez ça comme vous voulez, vous l'avez au verset premier, quand il nous est dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. » Et quand on lit ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. Personne n'entrait, personne ne sortait. Il y a des mots là, « fermé ». Barricadé, vous voyez, vous vous dites, mais c'est un truc monstrueux, quoi. Vous voyez, c'est impressionnant, c'est imbougeable. Vous voyez, c'est presque quand je lis ce texte, j'ai presque l'impression de lever les yeux, de regarder les murailles. Je me dis, oh, vous voyez. Mais la première leçon qui est là dans cette histoire, c'est qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et c'est simple, on l'entend au cours de nos réunions, on le sait pour la plupart d'entre nous, mais je crois que c'est important de le réaliser encore ce matin. La première leçon qui ressort de ce texte, on l'a au verset premier, oui, la situation, elle était là, c'était la réalité, c'était barricadé, c'était fermé, personne n'entrait, personne ne sortait, mais Dieu est intervenu. Alléluia. Et c'est vrai que il y a tellement de situations dans notre vie où c'est un petit peu la même chose. On peut se dire, mais comment on va s'en sortir? Justement, d'ailleurs, il y a des situations dont, en général, humainement parlant, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Humainement parlant, il n'y a rien à faire. Mais je bénis le Seigneur parce que cette histoire nous montre qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Avec Dieu, il est celui qui aime faire mentir les statistiques. Vous voyez, les statistiques disent que... Mais pour Dieu, les statistiques, c'est rien du tout. Et si Dieu a décidé que le Jéricho qui est devant nous tombe ou doit tomber, il tombera. Alléluia. Et je voudrais peut-être nous encourager ce matin. Peut-être on est devant un Jéricho, vous voyez. Ça peut être un Jéricho financier. ça peut être un Jéricho professionnel, voyez, ça peut être un Jéricho familial, voyez, des tellement de situations qui sont là, ben c'est pareil quoi, voyez, c'est énorme. On se dit mais c'est imbougeable, inchangeable, il y a rien à faire, ça va rester comme ça. Et puis qui dit muraille dit c'est du solide quoi, ça tient. Hein. Ça tient, c'est y a, voyez, j'avais lu certains commentaires qui disaient, alors bon, je me dis, de toute façon, à un ou deux mètres près, mais les murailles de Jéricho faisaient environ 10 mètres de largeur. Ça vous dit quelque chose? 10 mètres de largeur, hein, voyez, c'était comme deux murs. Deux gros murs, et puis au milieu, il y avait un vide, et puis il y avait encore un mur. Et en tout, ça faisait quasiment 10 mètres. Et pourtant, à un moment donné, ces murailles sont tombées devant le peuple d'Israël. Et je voudrais que ça, déjà, ça puisse nous encourager. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et ça, c'est la première leçon. Voyez, souvent, on est là, et quand on regarde avec nos yeux humains, il y a des situations où on se dit, bon, on ne s'en sort pas, quoi. On ne s'en sortira pas. C'est infaisable, voyez, mais Dieu aime renverser les tendances même les plus défavorables. Et c'est le premier enseignement de l'histoire de Jéricho. Le deuxième enseignement, vous l'avez au verset 3 et au verset 4. Dieu va dire quand même quelque chose d'assez surprenant au peuple d'Israël. Donc ils sont devant cette forteresse et puis Dieu leur dit « Faites le tour de la ville, vous tous les habitants de guerre, faites ça une fois. » Donc si je résume, vous faites ça pendant 6 jours une fois et le 7e jour, vous le faites 7 fois. Et ça nous enseigne une deuxième chose, c'est que les méthodes de Dieu, elles n'ont rien à voir avec les méthodes humaines. Parce que franchement, moi je me mets à la place des chefs militaires du peuple d'Israël. Quand ils ont dû entendre cette stratégie-là, cette méthode-là, ils ont dû se dire, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que c'est humainement parlant, c'est de la folie. Vous avez des murailles fortifiées qui sont là, Jéricho est là, il y a ces soldats qui sont en haut sur la muraille, et Dieu qui dit, vous allez faire pendant six jours, une fois le tour de la ville, et puis vous avez remarqué, alors on ne va pas relire tout le texte, mais avec tout l'attirail, ils sont sortis, hein, les trompettes, tout ça, tout le monde est sorti, puis devait sonner, tout ça. Voyez, mettez-vous à la place des soldats de Jéricho qui sont en haut et qui ont vu tout ce trafic en bas. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est quoi? C'est ça l'armée d'Israël, hein? Ils étaient là, ils se dire, mais c'est répété plusieurs fois, sonner des trompettes, etc. Ils ont dû se dire, mais c'est quoi? Hein, moi, j'ai dit, il y avait des mots d'aujourd'hui, mais ils ont dû se dire, mais c'est quoi ces guignols en bas? Voyez? Mais c'est là pour nous rappeler que les méthodes de Dieu, elles n'ont rien à voir avec les méthodes des hommes. Et on le voit ici, mais on le voit dans tellement de textes. On a vu il n'y a pas longtemps l'histoire de Gédéon, quand Dieu lui a dit « Ton armée, elle est trop importante. Ils étaient 32 000, tu vas en enlever. Il ne reste plus que 10 000 et Dieu dit « Il y en a encore trop. » Et puis à la fin, ils n'étaient que 300. Avouez que c'est quand même une méthode un peu surprenante. Diminuer une armée face à l'adversaire, nous, on aurait plutôt fait le contraire. Non, Dieu il fait le contraire. Vous voyez, Dieu a des méthodes surprenantes. Voyez. Et je me faisais cette réflexion, mais que de situations où des fois, dans nos vies, on est là et on ne comprend pas ce que Dieu fait. On est là, on se dit, Seigneur, je ne comprends pas ta méthode, je ne sais pas où tu veux en venir, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas pourquoi je vis ça, je ne sais pas pourquoi tu passes par là, je passe par là, je ne sais pas pourquoi tu me fais passer par là. Moi, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Nous, on aurait peut-être pris un autre chemin, vous voyez. Nous, on aurait peut-être fait les choses un petit peu différemment. Nous, on s'était fait tout notre scénario, vous voyez, un petit peu comme Naaman, vous vous rappelez? Je me disais, il viendra, il fera ci, il fera là, il mettra sa main. Vous vous rappelez l'histoire un petit peu? Il s'était fait tout le scénario. Et nous, on est comme ça. Des fois, on se fait nos scénarios, mais j'allais dire en toute bonne foi, quoi. On dit, le Seigneur va faire comme ça, comme ça, et puis ça ne se fait pas comme ça. Et des fois, on est là, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Où on va, là? Ou Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je passe par là? C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Je pense à la sœur de Lazare, Marthe, quand Jésus va arriver et qu'il va lui dire ceci, « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Mais moi, je la comprends. Hein. Elle avait raison en plus. « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Autrement dit, Seigneur, là tu t'es trompé. Hein. Là, franchement, la méthode n'était pas la bonne. Quoi. Tu t'es trompé. Mais on sait ce que le Seigneur a fait. Quoi. On sait comment le Seigneur est intervenu, voyez. Et je voudrais que cette histoire de Jéricho, elle soit là pour peut-être pour encourager tous ceux et toutes celles qui ce matin se disent, Seigneur, là, je sais pas où on va, je comprends pas, je sais pas pourquoi tu nous fais passer par là, je sais pas pourquoi ce chemin-là. Ben, les soldats du peuple d'Israël ont dû se poser exactement la même question quand Dieu leur a dit, vous allez faire pendant 6 jours le tour de la ville. Vous imaginez? Et puis en plus, il leur dit, c'est des petits détails ça, mais il leur dit, quand vous ferez le tour de la ville, moi je crois que c'était Dieu avait raison. C'était pas je crois, c'est même j'en suis sûr. Parce qu'au moins, ça les aurait évité de dire des paroles négatives. Vous voyez, dire, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire là, mais on a l'air, regarde les autres en haut, ils sont en train de rigoler comme des ânes, et nous, on est en bas, tu vois, là, on passe pour des ridicules. Vous voyez, ils auraient peut-être eu ce genre de paroles, vous voyez. Donc Dieu avait dit, vous dites rien, vous voyez, hein, vous dites rien. Hein, mais ils ont dû se poser des questions. Jéricho, c'est là aussi pour nous rappeler cette leçon. Dieu a des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Mais au bout du compte, Dieu a toujours raison. Parce que les murailles sont tombées. Alléluia. Et avec nos vies, c'est exactement la même chose. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dieu sait très bien où il va. Même si nous, on ne comprend pas. Et même si peut-être la fin, des fois, on se dit, Seigneur, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Hein. Mais le Seigneur, il voit tellement plus loin. Et je voudrais que ça puisse nous encourager ce matin. Troisième leçon, vous l'avez au verset 14 et au verset 15. Il a dit qu'ils firent une fois le tour de la ville le deuxième jour. Et ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le septième jour, ils firent de la même manière. Vous avez noté, ils firent. Ça montre une chose importante, c'est que il n'y a jamais de victoire sans obéissance. Et ouais. Il n'y a jamais de victoire sans obéissance. Et ça, c'est une règle absolue de la parole. Que vous retrouvez dans toute la parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai jamais vu quelqu'un faire tout le contraire de ce que Dieu dit et être béni. Peut-être pendant un temps, mais à un moment donné ou un autre, ça s'arrête. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait fi de tous les conseils de Dieu, qui mettait tout de côté et qui à la fin du compte, au bout du compte, eh ben ça avait marché pour lui. J'ai jamais vu ça dans la parole. J'ai pas vu. À un moment donné, forcément les choses s'arrêtent. Il y a un verset que j'affectionne particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est dans la petite épître de Paul à Philémon. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu cette petite épître. Il n'y a qu'un chapitre. Donc c'est vite réglé, c'est le verset 21. Paul écrit cette petite épître, il y avait un contexte, et il dit « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » Et notez bien, parce que moi, ça m'interpelle, ça me parle. « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. » Et de la même façon, Dieu nous laisse sa parole en comptant sur notre obéissance. C'est-à-dire que quelque part, après, ça ne dépend plus de lui, ça dépend de nous. Vous voyez ? Ça dépend de nous. Et je reviens là dans l'histoire de Jéricho, mais c'est un peu ça. Dieu avait donné un petit peu la méthode. Dieu avait donné un petit peu le fonctionnement, comment ça devait être fait. Mais après, c'était à eux d'obéir ou de ne pas obéir et de dire, ben non, nous, ça, cette méthode-là, on va être ridicule, on va passer pour des imbéciles. Donc, nous, on ne veut pas de ça. Nous, on va monter tout droit. Mais non, ils firent une fois le tour de la ville, ils l'ont fait, voyez, et je me dis quand même, ça n'a pas dû être évident. Hein. Des soldats, faire ça, un soldat, c'est un soldat, quoi. C'est pas fait pour faire le tour de la ville, quoi. Vous voyez, je me dis, mais, voyez, et de la même façon, pour nous, c'est pareil. Des fois, on est dans certaines situations où... On peut peut-être se moquer un peu de nous, de notre foi, notre façon de fonctionner, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On obéit ou on continue d'obéir au Seigneur ou on commence à prendre certains raccourcis? Et peut-être en ce moment, tu es, mon frère, ma sœur, tu es dans l'obéissance au Seigneur. En tout cas, il y a ce désir. En tout cas, on fait tout pour. On veut obéir au Seigneur, on veut honorer Dieu, on veut lui plaire. Et alors qu'on a obéi au Seigneur, on est un peu comme le peuple d'Israël, là. Peut-être qu'autour de nous, eux, c'était les soldats sur la muraille de Jéricho qui devaient se moquer d'eux. Peut-être autour de nous, il y a peut-être des gens qui sont là et qui se moquent de notre foi, qui se moquent de ta foi, qui peut-être la tournent en dérision. Hein, disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a des choses, des fois, on les fait. Mais on ne les fait pas parce que le pasteur nous le dit. On ne le fait pas parce que sinon, vous voyez, on ne le fait pas par peur, mais on le fait par obéissance. On le fait par obéissance. Seigneur, je le fais parce que je t'aime. Seigneur, il y a des choses, ben voilà, je mens pas, je m'agouille pas, voilà, il y a des choses, j'y touche pas, parce que je sais très bien que c'est pas bon. Il y a des raccourcis, je les prends pas, parce que l'ennemi de notre âme, c'est le champion des raccourcis. Vous voyez ? Et je sais très bien que si je m'engage dans cette voie-là, ça ne le fera pas. Je sais très bien que sur cette voie-là, tu ne viendras pas avec moi. Alors Seigneur, voilà. Et des fois, on est sur ce chemin de l'obéissance. Et la tentation un petit peu de mettre un peu d'eau dans notre vin ou de baisser les bras, peut-être peut nous assaillir. Parce que autour de nous, un petit peu comme Israël, là, il y a peut-être des petites remarques, des petits sourires, des petites moqueries, des petites réflexions. Et bah, ça ne vous est jamais arrivé à vous, les petites réflexions hein. Vous voyez, les petites réflexions. Hein. Ah, tu vas encore à l'église, tu vois. Enfin, encore. Hein, ah ouais, mais c'est vrai que toi, tu. Combien de fois j'ai entendu ça ? Ah ouais, mais toi, c'est vrai que. Ah, toi, c'est vrai. Ah ouais, mais toi. Ouais, bon. Vous voyez ? Mais ils sont restés dans l'obéissance et le Seigneur les a bénis. Et je voudrais t'encourager, je voudrais nous encourager ce matin, même si parfois ce n'est pas toujours évident, parce que peut-être il y a le conjoint converti, même peut-être parce que parfois au travail, ben, il y a des choses qui se passent autour de nous, etc. Mon frère, ma soeur, reste dans l'obéissance, parce que Dieu te bénira toujours sur ce chemin-là. À un moment donné, Dieu justifie toujours ses enfants, d'une façon ou d'une autre. Des fois, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais c'est une manière aussi, de quelque part, de nous épurer aussi. De nous éprouver, c'est pas toujours évident. Hein, des fois, le Seigneur se sert de certains chemins, de certaines mêmes moqueries, etc., mais qui sont là pour nous émonder. Voyez, on n'aime pas, mais l'émondage, ça fait partie de la marche avec Dieu. Hein. Et Jésus en parle dans Jean 15, quand il émonde, c'est pour porter encore plus de fruits. Et l'émondage, ben, quand le Seigneur taille un petit peu, ah, mais c'est pour que ça porte encore plus de fruits. Et je voudrais peut-être nous encourager ce matin, les uns et les autres, à rester dans l'obéissance. Seigneur, cette histoire de Jéricho, elle est là pour faire aussi ressortir ce principe qui ne change pas, qui est immuable, c'est que Dieu bénit toujours celui qui est dans le chemin de l'obéissance. Alléluia. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux faire ce qui te plaît. Alléluia. Puis il y a une quatrième leçon. Vous l'avez au verset 20. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc il est dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Alors ça, c'est très intéressant. La leçon, elle est celle-ci. C'est que parfois, dans une situation difficile, Dieu nous donne des signes. Il y a ce que j'appelle un clin d'œil du Seigneur, un encouragement. Ça fait du bien quand ça nous arrive. Vous êtes là dans un moment difficile et puis vous avez un clin d'œil du Seigneur. Alors ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut se manifester par un don spirituel. Ça peut se manifester par une prédication. Quelqu'un qui est là, qui est au courant de rien. Un prédicateur de passage qui arrive, il est au courant de rien. Et bah, il vous sort ce que vous êtes en train de vivre. Waouh, ça fait du bien. Ça peut être un feuillet de calendrier. Je parlais des calendriers tout à l'heure. Vous lisez le feuillet du calendrier et ça tombe pile poil. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois. Et là, quand vous... Ah, Seigneur, merci Seigneur, un signe, voyez, un petit encouragement, un clin d'œil, appelez ça comme vous voulez. Voyez, c'est vrai que parfois Dieu fait comme ça, mais parfois non. Mais parfois non. Ce que je veux dire ici dans ce texte, c'est que la muraille, il nous est dit, verset 20, il poussa de grands cris le peuple et la muraille s'écroula. Ce que je veux dire, c'est que quand ils ont fait le tour le premier jour, il n'y a pas une fissure qui a commencé à apparaître, hein. Et puis le deuxième jour, une deuxième. Oh, c'est bon, ça marche. Et puis le troisième jour, une troisième. Ça va tomber, ça va tomber. Et tous les jours, une fissure. Et chaque fois, un peu plus, vous voyez. Ça aurait été encourageant. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. La muraille, elle s'est écroulée d'un coup. Il n'y a pas eu de signe. Il n'y a rien eu. Je me dis que peut-être les soldats se sont dit, Seigneur, si vous pouvez nous encourager, ça nous fera du bien. Peut-être ce matin, par rapport à une situation, on dit, Seigneur, si tu pouvais m'encourager, un petit clin d'œil, ça me ferait du bien. Ça... Parce que là, j'en ai besoin. Alors, des fois, le Seigneur le fait, mais parfois, non. Il y a ce texte, on va faire un petit comparatif. À l'époque du prophète Élisée, à un moment donné, il y a des rois, ils se sont retrouvés dans une situation un petit peu particulière. Parmi ces rois, il y avait Josaphat. Et il s'était allié avec deux autres rois, et à un moment donné, plus d'eau. Plus d'eau. Et là... On va l'afficher, de Rois, chapitre 13, je prends juste ce qui m'intéresse. Là, l'homme de Dieu va dire au roi d'Israël, c'est pas celui-là, c'est 2 Rois chapitre 3. C'est peut-être moi, je me suis trompé. J'ai mal écrit. 2 Rois chapitre 3. Alors, c'est ce fameux texte où le prophète va dire « Faites des fosses, faites des fosses ». Il dit ainsi par l'Éternel, « Faites dans cette vallée des fosses ». Et l'homme de Dieu va dire ceci, « Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez vous, vos troupeaux et votre bétail. » Et notez bien, l'homme de Dieu va dire, « Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. » C'est-à-dire, il n'y aura aucun signe. Si il n'y a pas d'eau, et que Dieu vous dit « l'eau va venir », et puis qu'en même temps qu'il vous dit « l'eau va venir », vous voyez le ciel commencer à devenir tout noir, vous dites « ouais, ouais, l'eau va venir, ça c'est sûr, hein ». Ça vous encourage. Mais si le ciel est tout bleu, et il n'y a rien, il n'y a pas un signe, c'est un peu plus compliqué, hein. Et dans nos vies, c'est souvent la même chose. Béni soit Dieu pour toutes les fois où il y a eu des clins d'œil de Dieu, où Dieu a parlé par un don spirituel, où Dieu a parlé par une prédication, où Dieu a parlé des fois même par la bouche d'un incroyant. Parce que Dieu parle comme il veut. Et personnellement, ça m'est arrivé par la bouche d'un incroyant qui vous donne une parole de Dieu. Vous êtes là, vous le regardez. Et là, alors quand ça vous arrive, moi j'ai un souvenir, j'ai un souvenir avec Rosetta, un souvenir, l'histoire de crabe, je ne sais pas si je me souviens, dans une situation hyper compliquée. Hein, une femme qui a donné une parole, mais c'était vraiment une parole de Dieu. Elle s'en est pas rendu compte, hein, mais c'était clair et net. Et là, waouh, ça vous met un coup d'accélérateur dans la foi. Vous dites merci Seigneur, ça fait du bien. Alléluia. Hein, presque le problème il n'existe plus. Vous êtes là, vous savez que Dieu va intervenir. Savez, et puis effectivement, Dieu est intervenu. Hein, alléluia. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Là, les murailles, il n'y a pas eu de fissure, il n'y a pas eu une pierre qui a commencé à tomber. Pas une première. Pas tout d'un coup une pierre qui se disloque et qui tombe. Ah, vous vous dites, ah, il n'y a rien eu. La muraille s'est écroulée d'un coup. Voyez. J'aimerais peut-être encourager quelqu'un. Si peut-être en ce moment, il n'y a aucun signe, il n'y a aucun encouragement. Peut-être tu es venu ce matin en disant, Seigneur, je voudrais un don spirituel qui donne ma situation. Et il n'y en a pas eu. Je voudrais que le pasteur il parle de telle chose. Et lui, ben, il ne parle pas de ça. Ben, j'aimerais t'engager à continuer à marcher dans l'obéissance. Comme on fait le peuple d'Israël. Pas de signe, rien, juste la parole. Vous ferez, voilà comment vous ferez. Vous ferez le tour, etc. Et à un moment donné, la muraille s'est écroulée. Et je voudrais que ça puisse t'encourager. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on est, humain. Et on est pareil. Souvent, on est comme Gédéon. Hein. Gédéon, il a voulu une toison. Hein. Rappelez, ouais, je veux bien y aller, mais ouais, d'abord la toison, vous voyez. Et souvent, on se sert de ce texte pour dire, ouais, Seigneur, une toison, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Pas toujours comme ça. Alors, j'aimerais t'encourager peut-être, reste dans l'obéissance. Don spirituel ou pas, prédication ou pas, parole ou pas, ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a annoncé arrivera. Alléluia. Ça se fera, ça se passera. Et là, ce jour-là, la muraille s'est écroulée. Il n'y a pas eu de signe avant, mais la muraille s'est écroulée. Et puis la cinquième leçon, et je voudrais peut-être insister sur celle-là, d'autant plus que ce matin, au niveau des dons spirituels, il en a été question. Jéricho nous enseigne quelque chose aussi d'important. C'est qu'avec Dieu, rien ne passe inaperçu. Rien ne passe inaperçu. De quoi je veux parler? Vous avez remarqué qu'il ne fallait rien prendre de ce qui était dévoué par interdit. Et puis quand on arrive au chapitre 7, on ne l'a pas lu, il y a la fameuse histoire de la petite bataille de Haï. Et là, Israël est battu. Oh, Israël est battu. Et moi, je me mets à la place de Josué. D'ailleurs, vous relirez Josué chapitre 7. Josué, il est catastrophé, il ne comprend pas. Enfin, on vient de sortir de Jéricho où c'était monstrueux et Seigneur, on a été vainqueur. Et là, la petite ville de Haï, on pensait que les deux doigts dans le nez, tranquille, on va y arriver. Et d'ailleurs, ils vont même dire 2 ou 3 000 hommes, ça suffira, hein, pas besoin de plus. On va pas se fatiguer, je ne sais pas s'ils avaient des racines corses, je ne sais pas. Mais enfin, 2 ou 3 000, hein, les autres, je ne sais pas ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là. Vous voyez, mais. Et puis, ils sont battus. Et le poteau rose va être découvert. Il y a l'histoire de Hakan. Et Dieu va dire, mais Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti et les ont cachées parmi leurs bagages. Et là, c'est l'histoire de Hakan. On connaît un peu. Elle est terrible, cette histoire d'Hakan. Ce qui était caché va être mis à jour. Et ce qui est intéressant, enfin, pour que ça puisse nous enseigner, c'est que ça, c'est ce qui, cette histoire de Hakan, là, qu'on lit au chapitre 7, c'est quelque chose qui s'est passé au chapitre 6, pendant la conquête. Mais personne ne l'a vu, ni connu. Pourtant, Dieu avait été clair. Hein. Verset 18, on a lu, « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui sera dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent, tout l'or, tous les objets des reines de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Et là, bon, ok, l'ordre est donné, ils montent, ils s'emparent de tout ça, ils font tout ce qu'il fallait, et puis il y a Hakan au milieu, c'est à un moment donné, hop, il a un regard à droite, un regard à gauche, il n'y a personne, il a vu un beau manteau de chinéar, il a vu des lingots, il a vu de l'argent, il s'est dit, mince, c'est quand même, et il s'est mis ça sous le manteau, et il est allé mettre ça dans sa tente, il a planqué, et ni vu, ni connu. Ça, c'est pas écrit dans Josué chapitre 6. On le découvre au chapitre 7. Et ça montre une chose, c'est que ça nous enseigne une chose, c'est que ce qui passe inaperçu aux yeux des hommes ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Dieu voit tout. Hein. Dieu entend tout, mais Dieu voit tout. La Bible dit que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et peut-être à quand? Parce que entre le chapitre 6 et le chapitre 7, quand ils sont partis combattre la petite ville de Haï, il y a certainement quelques jours qui se sont écoulés. Quelques jours, peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas exactement le timing, vous voyez. Et peut-être que Hakan, il s'est dit, bon, personne n'a vu ni connu. Et puis permettez-moi cette expression. C'est vrai que Dieu avait dit gardez-vous de prendre tout ce qui sera dévoué par interdit, mais il semblerait que le ciel ne soit pas tombé sur la tête. Donc, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, ce qui était caché a fini par sortir. Et là, j'aimerais peut-être dire ceci, parce que c'est tellement important. Mon frère, ma sœur, si nous sommes dans une situation et on sait très bien que Dieu désapprouve. Si on est dans un péché, quel qu'il soit, personne ne le sait, personne ne le voit. Il semblerait que pour l'instant, entre guillemets, c'est une expression, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Ne prenons pas ça comme le fait que finalement, c'est pas si grave. Mais c'est peut-être la patience de Dieu qui s'exerce. Et si tel est le cas ce matin, s'il y a quelque chose qui est là, on sait devant Dieu que ça ne va pas. On sait que tout à l'heure, il a été question aussi dans un don spirituel de chaînes qui étaient là, de liens. Et des fois, il y a des choses, on sait très bien que devant Dieu, ça ne va pas. Mais personne ne le sait, personne ne le voit. J'aimerais ce matin, non pas te juger, mais te dire, il faut que tu amènes ça au pied du Seigneur. Parce que de toute manière, un jour ou l'autre, ça sortira. Et il vaut mieux venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, voilà, je te demande pardon. J'ai tel souci, j'ai tel problème, je suis dans tel péché, je suis dans telle désobéissance, il y a tel domaine, ça ne va pas. Mais je viens devant toi, je te demande pardon. Secours-moi. Il vaut mieux avoir cette attitude-là que de penser que ça passe inaperçu, personne ne le voit, je suis tranquille. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Eh bien oui, parce que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, oui. Mais si quelqu'un a péché, ça veut dire que quelque part, alors je vais le dire de cette façon, Dieu envisage l'erreur, parce qu'il sait comment on est. Dieu envisage l'erreur. C'est pour ça qu'il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Ce matin, Seigneur, ce n'est pas là comme un juge. Pour te, pour bam, que ça tombe sur ta tête. Il est là comme un avocat. Pour l'instant, le juge, c'est le diable. C'est plutôt l'accusateur. Vous savez, l'ennemi de notre âme, c'est celui qui vient nous tendre l'hameçon, qui nous le met devant le nez. Et une fois qu'on a mordu dedans, c'est lui qui, après, vient nous accuser. Il fait les deux, vous voyez. Il nous le met devant le nez. Et une fois qu'on a mordu dedans, il vient. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il fait les deux, vous voyez. Ce matin, le Seigneur n'est pas là comme un juge implacable. Il est là comme un avocat. Comme un avocat. Un jour viendra le jugement. Un jour viendra. Mais nous sommes encore dans la période de la grâce. Et c'est pour ça que ce matin, si dans notre vie, dans notre cœur, il y a quelque chose de caché, et on sait que devant Dieu, peut-être personne ne nous voit, personne ne le sait, personne n'est au courant, amène ça au Seigneur. De toute façon, l'histoire d'Acan nous le montre, un jour tout sort. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Regardez, 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge. Il y a des choses, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est ça que ça veut dire. Il est dit, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des choses qui ne sortent que... Vous voyez ? Je vais vous raconter une petite histoire. Vous aimez les petites histoires ? En général, même les petites histoires. C'est une anecdote. Je l'ai déjà racontée à Ajaccio et ailleurs, mais elle est tellement parlante. C'est un frère et une sœur, ils sont petits. Et la petite fille, elle a une petite poupée auquel elle tient beaucoup. Sauf que c'est pas les poupées d'aujourd'hui, quoi. C'est pas les Barbie, là, les machins, les trucs, là, vous voyez, bien habillées, tout ça. C'est comme avant, c'est-à-dire elles sont faites remplies de graines, vous voyez, de pois, enfin, je sais pas ce qu'il y avait dedans, les graines, c'est des vieux trucs, quoi. Et cette petite poupée, elle l'aime beaucoup. Et un jour, avec son frère, son petit frère, il s'amuse et il se chicane. Et le petit frère, de rage, de colère, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour lui faire mal, il prend sa poupée et va la planquer au fond du jardin. Il fait un trou dans le jardin, la poupée dans le trou, il l'enterre, terminé. Et la petite fille, ma poupée. Et puis la poupée, on ne la retrouve jamais, quoi. La maman, évidemment, va voir le petit, c'est toi ? Non, c'est pas moi. Disant, bon, bref. Puis le temps passe. Quelques semaines passent. Et puis un jour, la maman, elle appelle le petit garçon. Elle fait, viens me voir. Et puis elle l'amène au fond du jardin. Elle l'amène au fond du jardin. Ce qui s'était passé, c'est que comme la poupée était remplie de graines, avec le temps, ça avait poussé. Et sauf que quand ça avait poussé la forme de la poupée. Donc on voit la poupée qui sortait, vous voyez. Donc la mère a compris. Voyez, et il a été découvert. Voyez. Alors c'est mignon là. C'est mignon. Voyez. Mais quand on réfléchit à ça spirituellement parlant, tout sort, hein. Un jour ou l'autre, ça sort. L'histoire d'Acan, elle est terrible, mais elle est là pour nous montrer qu'il vaut mieux venir devant le Seigneur. Ce qui est dommage, c'est que il a attendu d'être découvert. Il vaut mieux avec le Seigneur être vrai, dire « Seigneur, voilà, je t'apporte mon cœur, tu vois, j'ai tel problème, peut-être personne ne le sait. J'ai peut-être des problèmes avec la pornographie, j'ai peut-être un problème avec ça, avec telle chose. » Seigneur, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, j'essaye, j'y arrive pas. Alors ce matin, tu peux apporter ça au pied du Seigneur. Et le Seigneur te libère, il va t'aider, il va te secourir, il va te pardonner. Mais ça ne sert à rien de cacher. Ça peut être, on peut tourner ça aussi dans l'autre sens. Je m'explique. Des fois, on essaye de bien faire, et plus on essaye de bien faire, et plus on ramasse. Alors vous essayez de faire, d'arranger les choses, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous essayez, vous avalez des couleuvres. Des fois, c'est même plus des couleuvres, c'est des boas. Des fois, c'est pas le boa, c'est carrément le troupeau de boas que vous avalez parce que vous voulez pas faire d'histoire, etc., etc. Et plus vous le faites, et plus ça empire. Des fois, vous dites, Seigneur, moi, j'essaye, mais ça sert à rien. Je vais faire comme les autres. Hein. Je vais commencer moi aussi à tailler. Mais dans ce passage-là, il est dit, on l'a lu là, les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite, ok. Mais regardez le verset 25. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, entre guillemets, pour le bien, je vais le dire comme ça, même si peut-être ça ne se voit pas pour le moment, un jour ou l'autre, ça sortira. Parce qu'à un moment donné ou un autre, Dieu justifie. Dieu justifie toujours. Des fois, on essaye de. Et puis on ramasse. Mais à un moment donné, dans le mauvais comme dans le bon, à un moment donné, tout sort. Ou tout finit par sortir. Et finalement, l'histoire de Jéricho, elle est aussi pour nous enseigner ça. C'est que devant Dieu, rien ne passe inaperçu. Devant les hommes, oui, parce que je reviens à ce qu'a fait Achan. Josué, c'est l'homme de Dieu. Il y a vu que du feu, hein. Que du feu, lui. Pourtant, c'est l'homme de Dieu. Il devait certainement être entouré de gens qui étaient spirituels. Ils n'ont vu que du feu. Personne n'y a rien vu. Mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et des fois, ce qui me rassure, c'est ça. C'est que Dieu sait et Dieu voit. Dieu sait, Dieu voit, Dieu entend. Nous, non. Mais Dieu voit et Dieu entend. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire, Seigneur, moi, je veux pas cacher. Si peut-être ce matin, il y a quelque chose qui est là, qui est caché, qui est enfoui au fond de toi, que peut-être tu essaies de masquer de mille et une façons, apporte-le au Seigneur, c'est plus efficace. Dire, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas rester comme ça. Et si peut-être ça ne suffit pas, eh bien fais-toi aider par un frère, fais-toi aider par une sœur. Si ce n'est pas le pasteur, c'est un autre. Par un frère, si, fais-toi aider pour que ce quelqu'un qui t'aide prie avec toi. Soit peut-être là comme un ami qui t'aide. Hein. Mais reste pas tout seul dans ton problème. Reste pas tout seul dans ton péché. Reste pas tout seul. Après, on n'est pas là pour se juger. On est là pour aider. Moi, je bénis le Seigneur le nombre de fois où ça m'est arrivé, des frères et sœurs qui viennent voir me dire, voilà, Cyril, voilà, je veux plus garder ça, il faut que je le dise à quelqu'un. Et bon, des fois vous avez l'impression de prendre un autobus dans la tête. Mais c'est le premier pas pour la délivrance, pour que Dieu puisse intervenir, pour qu'il se passe quelque chose. Et j'ai remarqué que tous ceux, toutes celles qui ont fait ça, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Il les a pardonnés, a prié ensemble. Et là, il y a eu peut-être des pleurs, il y a eu des larmes, mais ça a été des larmes de repentance, des larmes de bénédiction. Et Dieu est intervenu et Dieu a fait grâce. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas caché, on n'a pas dissimulé. Alléluia. Donc, vous voyez, je termine. Vous voyez, Jéricho, c'est une vieille histoire, mais ça nous enseigne tellement de choses. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Et si peut-être ce matin, on est devant un ou des Jéricho, ben, je voudrais que ça puisse t'encourager, dire, mon frère, ma sœur, avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ce Jéricho, il peut s'effondrer. Signe ou pas signe, il peut s'effondrer. Mais toi, nous, je me mets dedans, marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'obéissance et Dieu nous aidera. Alléluia. Moi, je crois encore aujourd'hui en des Jéricho qui tombent, en des Goliaths qui sont terrassés. Parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est pour ça que je voudrais que, peut-être en terminant, puisse prendre ce chant. Voilà. Ça va un petit peu avec Assaillons les villes, franchissons les murailles. Voilà. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Voilà. C'est pas qu'un chant, mais ce chant dit quand même quelque chose d'important, le refrain. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Et devant l'armée du roi marche le roi des rois. Alors Seigneur, je veux être avec par ta grâce, parce que par nous-mêmes on ne peut pas, mais je veux être digne de cette armée. Je veux être digne de cette armée. Je ne veux pas la déshonorer. Je veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais Seigneur, je veux marcher avec toi pour que face à toutes les adversaires, toutes les difficultés, toutes les Jéricho, tous les Goliaths qui se mettent devant moi, Seigneur, toutes ces choses, je sais que devant toi, elles ne tiennent pas. Et je préfère être avec toi que contre toi. Alors Seigneur, je veux marcher avec toi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ces choses que...